Eh bien, bonsoir aux auditeurs de Principe Actif, auditeurs, auditrices. C'est le groupe d'Amnesty Évreux qui est là pour une heure pour vous parler de beaucoup de choses sur l'actualité des droits humains, comme tous les mois. Et avec moi ce soir, il y a Sabine.
Bonsoir.
Claire-Lise.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et l'éternel Ronan qui m'a coupé la parole.
L'éternel... J'ai pas coupé la parole, mais je me suis rendu compte que l'enregistrement, j'avais oublié de lancer.
Hein. Ah, voilà.
Alors, on a raté un petit peu ton bonsoir.
L'éternel technicien Ronan. Et indispensable technicien. Ce soir, on a deux auditeurs qui sont présents dans le studio, Aymeric, et j'ai oublié son prénom, Armel, voilà, qui s'intéressent au groupe et qui sont venus nous voir ce soir et qui ne savaient pas ce que c'était qu'une émission de radio. Alors eux, en plus du son, ils ont droit à l'image. Donc voilà. Ce soir, encore une fois, comme je vous disais, un ordre du jour bien fourni. Donc, on va essayer d'enchaîner très vite et d'être le plus concis sur chaque sujet. On va vous parler de la suite de l'actualité sur le traité sur les armes. On va vous parler d'une opération qui va commencer dès la fin de la semaine prochaine et qui s'appelle le marathon des signatures. Vous devez vous dire déjà effectivement c'est quoi le marathon des signatures.
Bah, c'est pas du sport. Hein.
C'est pas du sport. Enfin si, c'est un genre de sport aussi quand même.
Ouais, c'est un sport de la main, on va dire.
Voilà. Mais vous en saurez plus tout à l'heure. Et à Évreux, on vous prépare beaucoup de surprises par rapport au marathon des signatures. Vous en saurez plus aussi tout à l'heure. Claire-Lise va vous parler aussi de la violence faite aux femmes. Sabine va vous parler de la répression contre des femmes homosexuelles.
Et des hommes.
Et des hommes homosexuels. L'actualité aussi en France nous ramène à ces sujets-là. Donc voilà, on va en parler. Et puis, il y aura toujours aussi nos bonnes nouvelles, la spécialité de Ronan. Il y aura un appel à l'action, comme tous les mois, des informations locales. Bref, je m'arrête là, beaucoup de choses. Donc, on va commencer tout de suite avec les armes, les enfants soldats, et Claire-Lise pour vous en parler.
Avec les armes, on n'est pas armés. Hein.
Bon, alors,
non, mais certains le sont.
Ah, bon.
Bon, je vais vous parler du film Rebelle, puisque à l'émission, la dernière fois, on était à la fin, on parlait des films, et on n'a pas pu raconter les deux films. Donc, la culture... Voilà. Donc le film Rebelle sort à l'affiche à partir du 28 novembre 2012. Et c'est un film qui dénonce l'utilisation des enfants soldats et qui pose la question des transferts irresponsables d'armes. Donc Rebelle se déroule en Afrique subsaharienne au 21e siècle. Et Komona, donc Rachel Mwanza, qui est l'actrice... est une jeune fille qui raconte à l'enfant qui grandit dans son ventre l'histoire de sa vie lorsqu'à 13 ans, elle a été enrôlée de force comme enfant soldat aux côtés des guerriers rebelles d'un pays d'Afrique centrale. Sur sa route, elle rencontre le magicien Serge Kenyinda, un garçon de 15 ans qui décide de la prendre sous son aile et de l'épouser. Cette fable, inspirée de faits réels, met en exergue la situation de violence extrême dans laquelle se trouvent les enfants soldats. Komona incarne la force et la volonté d'une fille soldat qui essaie de s'en sortir et de vaincre ses démons créés par les souffrances qu'elle a pu vivre. Il faut vous dire aussi que Rachel Mwanza, c'est une jeune fille qui vivait dans la rue en fait et qui a été à qui a été proposé de faire ce film, hein, qui a été primé. Voilà. Donc au niveau mondial, ce sont des centaines de milliers d'enfants de moins de 18 ans qui sont impliqués dans des conflits armés, soit au sein des forces régulières de leur pays, soit en tant que membres de groupes armés, d'unités paramilitaires ou de milices, entre autres. Nombre d'entre eux ont été enlevés alors qu'ils étaient à l'école, dans la rue ou chez eux. D'autres s'engagent « volontairement », entre guillemets, souvent parce qu'ils ne voient guère d'autres solutions. Filles et garçons participent au combat. Beaucoup sont tués ou blessés, d'autres servent d'espions, de messagers, de porteurs, de domestiques, de poseurs de mines ou de démineurs. Les filles risquent tout particulièrement d'être violées et soumises à d'autres formes de violences sexuelles. Ces jeunes sont spoliés de leur enfance, ils sont exposés à de terribles dangers ainsi qu'à de profondes souffrances physiques et psychologiques. Amnesty International considère le combat contre l'utilisation des enfants soldats comme primordial parce que c'est avant tout une lutte pour les droits humains et tout particulièrement pour les droits de l'enfant. C'est pourquoi, avec plusieurs ONG, elle fonde en 1998 la Coalition internationale pour mettre fin à l'utilisation d'enfants soldats. L'objectif de la coalition est était l'adoption d'un protocole additionnel à la Convention relative aux droits de l'enfant, interdisant toute forme de recrutement et toute forme de participation des enfants au conflit. Le protocole a été adopté le 25 mai 2000 par l'Assemblée générale des Nations unies et est entré en vigueur en 2002. Donc, pour lutter contre le phénomène des enfants soldats, il existe de nombreuses solutions, comme le fait de lutter contre l'impunité en obtenant la poursuite des responsables de recrutement d'enfants soldats, et encore en agissant en vue de l'adoption d'un traité international sur le commerce des armes classiques. Aujourd'hui, il est reconnu que la disponibilité des armes légères et de petit calibre aggrave l'impact des conflits sur les enfants. Actuellement, il n'existe aucune réglementation au niveau international sur le commerce des armes. Le commerce des bananes est plus contrôlé que celui des armes. Et c'est pourquoi, depuis les années 1990, Amnesty International milite en faveur d'un traité international sur le commerce des armes classiques.
Ça rappellera quelques souvenirs aux gens qui étaient au Festival Rock au mois de juin.
La banane, elle est parmi nous d'ailleurs.
La banane est parmi nous.
Bonsoir.
La banane Amnesty porte un nom, elle s'appelle Sabine.
Aujourd'hui, elle est voilà, banane.
Je vais croiser des gens qui... C'est toi la banane. Oui.
Voilà. Mais ce jour-là, on avait la banane aussi.
Ouais. Tout à fait.
Oui, c'est vrai.
Même la pêche. Même.
Bah, c'est la banane. Voilà.
Donc, parallèlement quand même à cette... Amnesty mène une campagne en faveur de la justice internationale. Et lancée en 2010, elle durera jusqu'en 2016. Donc pour essayer de poursuivre les crimes de guerre contre le recrutement et l'utilisation d'enfants soldats, que ce soit au niveau international ou national. Oula.
Très bien. Petite information, nous avons demandé auprès du cinéma Pathé d'Évreux de faire une soirée spéciale avec le film Rebelle. Ce qui ne manquera pas d'arriver, mais pour l'instant, nous n'avons malheureusement pas encore la date à vous proposer, mais c'est en cours de discussion. Donc, on vous tiendra là aussi au courant.
Voilà. Le commerce des armes, je voulais continuer vous en parler un petit peu.
Bien sûr.
Vas-y, Carlise.
Parce que ça fait lien par rapport à tout ce que tu viens de nous dire.
Voilà, c'est ça. Puis surtout, Renaud, après, il va continuer à en parler. Donc, il y a un traité historique visant à réguler le commerce mondial des armes.
On en a déjà parlé plusieurs fois.
Voilà, c'est ça.
Mais c'est important d'y revenir, de toute façon.
Tout à fait.
Ce qu'il faut dire, que le 7 novembre, aux Nations Unies, il y a eu, en fait, un vote retentissant en faveur du traité sur le commerce des armes. Et il y a 157 gouvernements siégeant à la première commission de l'Assemblée nationale des Nations Unies qui ont voté en faveur d'une finalisation du traité sur le commerce des armes en mars prochain. Donc en fait, ce traité doit être repris du 18 au 28 mars 2013.
C'est bien, on a les mêmes dates.
Dis-le encore. Ouais, c'est ça, on était contents, on avait les mêmes infos.
Alors, parce qu'on avait peur, on n'a pas pris les infos au même endroit.
C'est normal, Amnesty, on recoupe toujours les informations avant de les passer dans le public. Donc là, vous avez la preuve que les informations sont recoupées.
Alors, à savoir quand même que sur les 6 grands pays exportateurs d'armes, seule la Russie s'est abstenue de voter. La Chine, comme l'Allemagne, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, soutient désormais la résolution.
Et sais-tu, tiens, une petite question comme ça, sais-tu, la France, elle est passée au 20e rang au niveau des exportateurs d'armes?
Bon, alors, il a toutes les réponses.
C'est un quiz qu'on n'avait pas imaginé.
J'aurais dû le deuxième ou le troisième.
Non, quatrième.
Oh, bah voilà. Forcément, on n'a pas les mêmes notes.
4 sur 4.
Ça va, t'étais pas loin de la vérité, t'as le droit de continuer, Clarisse.
Hein?
Et qui représente 8,5% des parts du marché du trafic.
Donc la campagne quand même contre le commerce des armes, c'est une campagne qui est engagée depuis maintenant 17 ans par Amnesty International et ses partenaires dans le but d'obtenir un traité sur le commerce des armes, aidant à protéger les populations sur le terrain et qui sont toujours les plus touchées par les violences des droits humains lors des répressions, des violences et des conflits armés dans le monde entier.
Oui, on peut reprendre l'exemple qu'on avait pris au Festival Rock, dont était intervenu juste avant Manu Chao, c'était de dire que si le commerce des armes était déjà signé, à l'heure actuelle, les pays ne pourraient pas vendre des armes comme ils veulent à la Syrie. Ça vous rappellera quelque chose?
Ah bon. Donc cette campagne a débouché en juillet 2012 sur une conférence historique pour un traité sur le commerce des armes, lors de laquelle a été façonné le projet de traité actuel, donc qui n'est pas encore voté par tout le monde. Bien qu'un petit nombre de pays aient retardé les négociations et l'adoption du texte en juillet, les gouvernements en faveur du traité utilisent ce délai supplémentaire pour mener d'âpres discussions sur des points techniques.
Et tu les as les noms des pays ?
Si tu me laisses lire jusqu'au bout, je vais arriver à te le dire, mais comme tu m'interromps toutes les deux minutes, j'y arrive pas. Voilà, et j'ai perdu le fil.
Oh là là, tout à l'heure, on va m'accuser de la violence contre une femme.
Ouais, c'est ça. Donc, non, j'ai perdu mon bout de papier. Donc, voilà.
Non, mais là,
tu vas en parler en...
Non, je ne l'ai pas sur mes feuilles. Hein.
Non, mais tu vas continuer à en parler.
L'important, c'est de savoir que la campagne continue et qu'on a bon espoir, puisque le traité n'a pas été signé au mois de juillet dernier, malheureusement. On a bon espoir, effectivement, qu'on puisse aboutir au printemps 2013.
Et moi, je voulais justement en parler, c'était au niveau de la France.
Bah voilà. Oui, tiens.
Voilà, parce qu'il faut savoir que le 22 novembre, le ministre de la Défense a rendu public son 13e rapport au Parlement sur les exportations d'armement de la France, lors d'une audition à l'Assemblée nationale devant la Commission de la Défense et celle des Affaires étrangères. Cette démarche est une première sous la 5e République et répond aux recommandations des ONG comme Amnesty International France. Elle va dans le sens aussi de nombreuses questions écrites posées en ce sens par des parlementaires ces derniers mois. L'initiative du gouvernement s'inscrit enfin dans le respect des engagements de campagne pris par François Hollande. Notons que le ministre indiquait vouloir retirer l'exercice en 2013. Mais au-delà, rien n'a encore vraiment changé, comme le rang de la France qui reste, comme je l'ai dit tout à l'heure, 4e exportateur mondial d'armement avec 8,5% des parts de marché au niveau mondial sur la période 2006 à 2011. Comme nous le dénoncions en 2011 aux côtés d'autres ONG, le rapport au Parlement reste insuffisamment détaillé. À sa lecture, il est d'une part impossible de déterminer avec précision ce que vend la France à tel ou tel pays, quantité matérielle exacte, pour quelle utilisation finale, à quel destinataire précis et en passant par quel intermédiaire. Pour le moment, nous devons nous contenter donc de données générales qui ne sauraient cacher nos plus vives préoccupations en matière de droits humains concernant certaines destinations de transfert d'équipements militaires pour l'année 2011, comme la Libye, le Bahreïn, l'Égypte, la RDC, la Chine ou encore la Colombie. Quand nombre de refus à l'exportation, 59 pour 2011, il est l'un des plus faibles depuis 2005, sans qu'il soit possible de déterminer si cela est dû à un renforcement ou non du contrôle de l'exportation. Au-delà de ces inquiétudes, relevons que la France semble avoir tiré des enseignements du printemps arabe pour l'avenir, même si certaines des destinations mentionnées plus haut pourraient en laisser douter. Ainsi, le gouvernement estime nécessaire de renforcer la vigilance s'agissant de la prise en compte du respect des droits humains dans le pays de destination finale et sa situation intérieure, en intégrant un examen des pratiques en matière de maintien de l'ordre. Le gouvernement va, lors du contrôle, prendre en compte systématiquement l'utilisation potentielle désastreuse des équipements au cours d'opérations de maintien de l'ordre, même s'ils n'ont pas été conçus spécifiquement pour cet usage. Le gouvernement entend renforcer sa vigilance sur les risques de réexportation des matériels exportés depuis la France en demandant chaque fois que nécessaire un engagement étatique de non-réexportation des matériels exportés et en intégrant au contrôle le risque de détournement d'équipements intégrés et des systèmes d'armes complets. Le gouvernement va entreprendre pour le début de l'année 2013 une clarification des dispositifs de contrôle dans une perspective de simplification. D'habitude, c'est moi qui dis que les autres sont loin du micro, mais là, attends. Je règle juste un truc, 30 secondes. J'ai un retour dans
c'est beau la technique, Renaud.
Non, j'ai un retour dans les oreilles.
C'est Sabine qui a fait un geste au technicien.
Non, mais en plus, j'ai un retour dans les oreilles.
Allez, continue.
Donc, la question de la transparence en matière des ventes d'armes doit rester au cœur des priorités du gouvernement en vue de son amélioration, et cela afin de pouvoir évaluer la politique à l'exportation de la France à l'aune de ses engagements internationaux en matière notamment de respect des droits humains. D'autant plus qu'elle est au cœur du projet du traité international sur le commerce des armes dont a parlé tout à l'heure Kerlis, sur lequel la France est l'un des pays pilotes et qui doit négocier définitivement lors d'une seconde et dernière conférence de négociation du 18 au 28 avril 2013. Au cœur de ces considérations, les parlementaires ont la responsabilité de créer le débat aux fins de contrôle, ce qu'ils n'ont pas fait sous la législature précédente.
Je voulais juste finir quand même sur le film Rebelle. Tout à l'heure, il y a, si vous allez sur le site www.rebelle.lefilm.com, Y a le chanteur de hip-hop Emmanuel Jal, qui est un ancien enfant soldat du Soudan, qui s'engage pour un traité sur le commerce des armes. Donc, vous pouvez écouter le clip qu'il a enregistré.
Voilà. On va peut-être faire une première pause musicale, après toutes ces informations assez concentrées.
Alors juste
Renan est prêt, parce que j'ai eu une inquiétude en regardant
Renan.
Ceux qui n'étaient pas au courant de la banane, parce qu'on parle de banane, c'est qu'on demandait à ce que, comme les bananes sont contrôlées,
le commerce des bananes,
est contrôlé au Festival Rock, on demandait à ce que les armes le soient également. Et la banane était en colère. Donc, comme ils sont tous des lâcheurs et personne ne voulait mettre la banane, ben voilà.
Non, il y a toi qui étais à la taille du truc.
Tu rigoles, elle était trop grande.
On était pas là, pour le moment.
Mais je rappelle que toi en banane, c'est paru dans la presse.
On suivra.
Pour ceux qui sont intéressés, j'ai les photos.
Oui. Non, mais c'est paru dans la presse. Bon, allez. Voilà. Musique, on se retrouve tout de suite.
Cause it rules the earth. He can do with it whatever he please. And if things don't change soon, he will. Oh man, isn't that it is done? The step while touching the moon. Now there's a woman on my block. She just sits there. As this night goes still, who's gonna take away?
Who's gonna take away?
Who's gonna take away?
Who's gonna take away?
His license to kill. But now they're taking and they're teaching and they're growing for life and they're setting on a path where he's bound to get ill. Will they bury him with stars? Sell his body like they do his cars. Now there's a woman on my block. Just sits there facing the hill, saying who's gonna take away?
Who's gonna take away?
Who's gonna take away? Now he's hell-bent for destruction. He's afraid and confused, and his brain has been mismanaged with great skill. In his eyes that just tell him lies. But there's a woman on my block,
sits there
in a cold chill, saying who's gonna take away?
Who's gonna take away?
Who's gonna take away?
Who's gonna take away?
His license to kill.
Maybe I'll
noise make a spirit make a heart break. Leave no stone unturned. Maybe an actor in a plot. That might be all that you got. Till you ever you. Till you ever you. Clearly run.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, le groupe d'Amnesty International d'Evreux. On vient d'entendre tirer du quadruple CD édité en soutien à Amnesty et par Amnesty International, un titre de Elvis Costello, License to Kill, qui est donc tiré du film, du titre, oh, je vais pas arriver à le dire, du disque, The Chimes of Freedom. après les films, les disques, etc. On travaille beaucoup dans les médias. Donc, marathon des signatures, on en parlait tout à l'heure. Ça va être, vous allez nous voir beaucoup dans les 15 jours qui viennent sur Évreux. Je dis ça à tous les auditeurs hébroïciens, et je sais qu'ils sont nombreux. Vous allez nous voir beaucoup pour faire le marathon des signatures. C'est quoi un marathon des signatures? C'est une opération qui a été lancée à l'initiative d'Amnesty Pologne il y a environ une dizaine d'années. Et chaque année, autour du 10 décembre, qui est la journée mondiale des droits de l'homme, puisque c'est les journées anniversaires de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, Amnesty International organise une mobilisation internationale, le marathon des signatures. C'est le but de cette opération, c'est de faire signer un maximum de gens qui s'engagent pour défendre 12 cas d'atteinte aux droits fondamentaux. Donc on va vous parler des cas qui vont être défendus cette année. Cette opération, dans près de 80 pays et dans pas moins de 200 villes en France, on en fait partie, vise la mobilisation du plus grand nombre dans la défense des droits et des hommes dont la vie est menacée. Chaque situation est emblématique de graves violations des droits humains dénoncées par Amnesty International. Prisonniers d'opinion, personnes assassinées, victimes de torture, de discrimination, de violences sexuelles, groupes menacés d'expulsion forcée, journalistes et défenseurs des droits humains harcelés, etc. Du 16 au 16 décembre 2012, les citoyens du monde entier seront invités à soutenir ces personnes en danger en participant aux mobilisations organisées. Voilà la définition du marathon. Alors avant de vous parler de celui de 2012, c'est qui ne va pas tarder, on va vous faire un tout petit bilan très bref sur le marathon 2011. Qui a été repris aussi à Évreux, mais de façon moins importante que ce qu'on va faire cette année. Encore une fois, c'est pour vous faire languir que je dis ça. Mais il faut savoir qu'au niveau international, on a défendu 14 cas l'année dernière et on a eu 1 376 492 actions dans 78 pays. Alors avec Sabine, on s'est dit que c'était quand même rigolo. On va vous les dire très vite pour pas que ça prenne beaucoup de temps, mais parce que dans Amnesty, il y a international. Et voilà donc la liste des pays qui ont participé au marathon 2011.
Afrique du Sud.
Algérie.
Allemagne.
Australie.
Autriche.
Bangladesh.
Belgique francophone.
Belgique néerlandophone.
Bénin.
Bermude.
Bolivia.
Brésil.
Burkina Faso.
Cameroun.
Canada anglophone.
Canada francophone.
Chili.
Corée.
Côte d'Ivoire.
Croatie.
Chypre.
Danemark.
Espagne.
États-Unis.
Finlande.
France.
Ghana.
Grèce.
Hong Kong.
Hongrie.
Islande.
Inde.
Irlande.
Israël.
Italie.
Japon.
Libéria.
Luxembourg.
Malaisie.
Mali.
Maroc.
Maurice.
Moldavie.
Mongolie.
Népal.
Nouvelle-Zélande.
Nigeria.
Norvège.
Pakistan.
Paraguay.
Pérou.
Philippines.
Pologne.
Porto Rico.
Portugal.
Attends, tu mets le cache. On l'a dit. République démocratique du Congo, on l'a dit ça déjà. Alors, on va répéter.
République tchèque.
Roumanie.
Royaume-Uni.
Russie.
Salvador.
Sénégal.
Sierra Leone.
Slovaquie.
Slovénie.
Suède.
Suisse.
Taïwan.
Thaïlande.
Togo.
Tunisie.
Turquie.
Ukraine.
Uruguay.
Venezuela.
Yémen.
Zambie.
Zimbabwe. C'était classé par ordre alphabétique.
Et c'est une chance, Sabine, t'es tombée sur tous les noms espagnols.
Oui, ça fait plaisir à Sabine.
Au hasard. Voilà.
Un petit cocorico sur ces chiffres, on s'arrêtera là. Le pays qui a récupéré le plus d'actions pour le marathon 2011.
Ça a dit cocorico, donc ça fait plaisir.
Bah oui,
France.
C'est la France. On a totalisé 251 000, c'est ça, actions.
Mais peut ça. Mieux faire encore
peut
et
mieux
encore.
Faire. Juste après la Pologne, l'initiative était partie de chez eux, mais c'est remarquable pour une section qui est moins importante que la section française en nombre de militants. Ils ont obtenu 163 590 actions. Et un petit chiffre aussi que je voulais vous citer, on vous a parlé tout à l'heure du Togo où le marathon des signatures a eu lieu. Et un pays comme le Togo a obtenu 10 610 actions, ce qui est tout à fait remarquable là aussi. Un petit mot sur ce qu'on a obtenu, parce qu'on nous demande toujours, et ça fait partie des bonnes nouvelles, ce qu'on a obtenu. Alors, c'est de mémoire que je vous cite ça. J'avais préparé tout ça, mais on va abréger. De mémoire que je vous cite ça sur le marathon 2011. On a obtenu le fait que les femmes... Si vous réécoutez l'émission en ligne du mois de novembre l'année dernière, il y avait Sabine qui chantait avec Mina pour deux femmes. Et ça, c'est vrai, hein, c'est ce que je vous raconte. Elles ont chanté une chanson. Chanté une chanson pour deux femmes. Effectivement, deux Mexicaines, dont tu as le nom quelque part par là, Sabine, si on le retrouve. Inès, c'est pas grave, et dont on a obtenu, qui avait porté plainte parce qu'elles avaient été violées par les forces de l'ordre et que leur plainte était refusée, et violée par l'armée, et leur plainte a été reconnue par les autorités mexicaines, et la procédure de jugement de leurs tortionnaires est en cours. Donc première action obtenue. Autre action obtenue, on a défendu 3 prisonniers qui étaient 3 anciens militaires qui étaient détenus arbitrairement en République démocratique du Congo. Les 3 ont été libérés suite à notre action. Il y en a d'ailleurs un qui a... Mais j'ai perdu la fiche. Je suis désolé, là, on a tellement de papiers quand on fait une émission. Et voilà, je vais la retrouver. On a eu une petite lettre de soutien, de remerciement d'un des Congolais dont on a obtenu la libération. C'était Germain, Médard et Bosch. Je vous dis que les prénoms, parce que les noms de famille, c'est plus compliqué. Donc, il nous a remercié. Et en disant, par la présente, je prends l'initiative de vous transmettre mes remerciements sincères pour tous les efforts consentis sans la moindre réserve à toutes les pressions exercées par vous afin d'obtenir ma libération d'une longue détention cellulaire qui aura pratiquement duré 9 ans dans les locaux répressifs de la Direction Générale des Renseignements Militaires, etc., etc., etc. Et il termine en disant, le même remerciement vont tout droit à tous les membres d'Amnesty International qui m'ont soutenu par leurs écrits en me faisant savoir que le monde ne m'avait pas oublié. Du courage et de l'espoir parce qu'ils se battaient pour me faire obtenir justice et libération, qu'ils trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude. Mes salutations les meilleures. Voilà, c'était un petit résumé. On a obtenu aussi la libération du prisonnier d'opinion qui était objecteur de conscience turc, qui était emprisonné parce qu'ils étaient opposés au service militaire, qui a été libéré. On a obtenu l'amélioration des conditions de vie des gens au Nigeria, qui étaient menacés, j'ai oublié le nom aussi, vous m'excuserez, j'ai oublié le nom de leur bidonville, malheureusement c'est dans un bidonville, mais qui était actuellement en train d'être rasé. Et ils ont obtenu un certain nombre de sursis, et surtout l'engagement des autorités nigériennes à ce qu'ils soient relogés dans de meilleures conditions. C'est en cours aussi, même si tout n'est pas réglé. Bref, on a obtenu un certain nombre de succès sur les 12 quoi qu'on a obtenus. On a aussi obtenu des choses on a aussi constaté du dossier du moins qui n'ont pas évolué. Bien sûr, on n'obtient jamais tout ce qu'on veut, malheureusement. Mais encore une fois, sans notre intervention et sans ces 1 million et quelques actions, ces gens-là, effectivement, personne n'aurait jamais parlé d'eux et ils ne seraient pas ou libérés ou ils n'auraient pas récupéré justice par rapport à leurs atteintes au niveau des droits fondamentaux. Donc, on recommence cette année. Et cette année, on fait à Évreux, mais Éric qui nous regarde ici, qui n'est pas au micro, mais qui nous regarde, vous le verrez avec nous, parce qu'on va faire des projections sur le mur du théâtre d'Évreux, des 12 cas dont on va vous résumer, sauf un pour lequel Sabine va vous parler plus longuement. Les 12 cas dont on va vous résumer la situation vont être projetés à plusieurs occasions, à plusieurs dates, en fin d'après-midi, probablement de 17h à 19h, sur les murs du théâtre d'Évreux, avec bien sûr une possibilité de venir nous voir, c'est chaudement recommandé, mais surtout de venir signer pour eux et de participer à cette action. Voilà, c'est à mon avis une grande première qu'on fait. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Voilà, on a d'autres projets, d'autres idées par rapport à ce marathon, mais on vous laisse aussi quelques surprises. C'est du 7 au 16 décembre prochain, retenez bien les dates, et vous allez nous voir à plusieurs reprises dans Évreux. Donc les cas cette année, vas-y, Sabine va commencer par le premier, puis on va se les passer, vas-y.
Alors en Chine, Gao Jingchen, défenseur des droits humains, enfermé parce qu'il plaide pour la liberté.
Alors, en Libye, les habitants de Tawarga, déplacés de force, en sécurité nulle part.
Aux États-Unis, en Louisiane, Herman Valait et Albert Woodfock, les deux d'Angola qui sont détenus à l'isolement depuis 4 décennies.
Au Nigeria, delta du Niger, la communauté de Bodo, des vies détruites par la pollution pétrolière.
En Colombie, les membres du Novice Sucre harcelé et menacé parce qu'il demande justice.
Fédération de Russie, Tchétchénie, Islam Oumar Patchaïev, disparu et torturé pour un message sur Internet, en danger de mort depuis.
En Roumanie, les familles roms de la rue Coastei, expulsées de force, relogées dans l'indignité.
Au Soudan, les membres de Jirifna, harcelés en raison de leur militantisme pour les droits humains et la démocratie.
En Taïwan, Chiu Ho-chun, torturé pour qu'il avoue, passible d'exécution malgré les doutes.
En Iran, les membres du Centre pour les défenseurs des droits humains, emprisonnés parce qu'ils défendent les droits humains.
en Afrique du Sud, Noxolo Nogwawaza, militante assassinée en raison de son orientation sexuelle.
Et en Égypte, Aza Hilal Aman Souleyman, tabassée par les forces de sécurité, elle demande justice.
Donc, je crois Sabine, que Clarisse, elle va en parler.
Oui, Clarisse va en parler, effectivement, elle va revenir sur son cas. Et Sabine va vous parler de l'Afrique du Sud.
Alors donc, c'est une militante qui a été assassinée en raison de son orientation sexuelle. On en parlera tout à l'heure par rapport à l'Ouganda, et pareil, où ça se passe très mal. Le 24 avril 2011, Noxolo Nogwaza, jeune femme lesbienne sud-africaine de 24 ans, a été tuée alors qu'elle rentrait chez elle après une soirée entre amis. Son ou ses agresseurs l'ont violée, frappée à plusieurs reprises et poignardée avant de jeter son corps dans un fossé. Selon les informations recueillies par Amnesty International, Noxolo a été prise pour cible en raison de son orientation sexuelle. Elle était membre du comité d'organisation de la Marche des Fiertés d'Ekurko Uleni, l'époque. Cette organisation vise à informer les personnes LGBTI, lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexuées, à leur donner des moyens d'agir pour lutter contre les crimes de haine, le harcèlement et l'injustice grâce à des actions éducatives et de sensibilisation. Noxolo a vécu et est morte à Kwatema, un township à l'est de Johannesburg, dans la province de Gauteng. Défenseuse des droits humains des personnes LGBTI, elle était consciente des dangers de vivre son homosexualité au grand jour. Mais elle refusait de laisser le climat de peur l'empêcher de vivre comme elle l'entendait. Mère de deux jeunes enfants, c'était aussi une amatrice de foot et une grande lectrice malgré le fait qu'elle ait arrêté l'école jeune. Depuis qu'elle a été tuée en avril 2011, il semble que la police n'ait pris aucune initiative importante dans le cadre de l'enquête. De ce fait, aucune preuve majeure n'a été mise en évidence. L'enquête n'a pas avancé et aucun responsable présumé n'a été traduit en justice. L'indifférence évidente montrée par la police dans cette enquête est révélatrice d'un climat d'homophobie présent dans la police comme dans la société. Les personnes LGBTI dénonçant des agressions à leur égard doivent souvent faire face à une seconde victimisation de la part des officiers de police ou des personnels médicaux. Mépris, moquerie ou pour le moins indifférence caractérise l'attitude de la police au moment de recevoir les plaintes. Cette discrimination a mené à un manque de confiance des victimes dans la capacité et la volonté de la police de les protéger et de faire aboutir les enquêtes et par conséquent à une réticence à dénoncer les agressions. Les discriminations, les violences, les crimes de haine contre les personnes LGBTI se sont banalisés en Afrique du Sud. Raillerie, insultes et menaces sont monnaie courante, à tel point que de nombreuses personnes ne les considèrent même plus comme une forme de violence à leur égard. Depuis 2007, au moins 10 cas de viol de lesbiennes suivis de meurtres ont été signalés dans des townships situés dans diverses parties du pays, et sans compter ceux qui n'en parlent pas pour avoir une certaine paix. Donc voilà, ça c'est un des 12 cas que nous défendons. Alors, à vos stylos, vous pouvez aller sur amnesty.fr, vous pouvez nous rencontrer.
Oui, venez
sur
nous voir. Venez nous voir. Alors, petite précision, les cas, on peut les signer à partir du 7 décembre, parce que c'est la période du marathon, comme on disait, donc il y a une période très précise, du 7 au 16 décembre. Et le site consacré s'appellera, il sera ouvert le 7, s'appellera www.marathondessignaturestoutattaché.org. Donc il démarrera le 7 décembre au matin. Vous pourrez bien sûr aller signer en ligne dessus. Il y aura un tas d'informations et un tas de choses à découvrir sur ce site. Mais vous pouvez, et vous êtes chaudement recommandé encore une fois, à venir nous voir lors de nos projections et peut-être ailleurs, parce qu'on aura peut-être encore d'autres idées. La surprise. Dernier mot sur le marathon des signatures. Et tout à l'heure, Clarisse va vous parler aussi d'un autre cas qui est donc cette femme égyptienne qui porte plainte. Les médias, évidemment, sont sollicités. Je pense qu'on pourra avoir la diffusion d'un clip radio qui est en cours de finition sur l'antenne de Principe Actif. Je pense que nos amis n'y verront pas d'inconvénient. Sans doute aussi sur Radio HDR à Rouen, qui est partenaire. Et il y a également des gens connus qui vont s'engager au niveau du marathon, soit en signant des textes, soit en faisant des chansons, soit en faisant différentes choses. Parmi les gens qui ont déjà confirmé, il y a l'écrivain Marc Lévy. il y a le chanteur Abdal Malik, il y a le groupe Moriarty, il y a l'humoriste Guy Bedos, et il y a l'ancien ministre des Sceaux et avocat Robert Badinter, et il y a également d'autres personnes qui vont y participer, mais c'est les noms qu'on a pour l'instant de disponibles. Voilà. Des informations aussi sur Facebook, qui est un média important. Vous pouvez déjà, ça c'était ouvert depuis le 19 septembre, il y a une page Facebook qui s'appelle « Unis pour défendre leurs droits », qui est une page créée par Amnesty, et pour lesquelles vous avez déjà des informations qui sont données et les moyens effectivement de nous aider pour cette opération. Encore une fois, ça va du 7 au 16, il faut rassembler le maximum de signatures, il faut mettre un coup de poing dans la fourmilière, je dirais, par rapport aux atteintes aux droits fondamentaux, et pour ça, il faut nous aider à le faire.
C'est bien pour ça que ça s'appelle le marathon.
Voilà, tout à fait. On va peut-être faire une
petite bonne nouvelle.
Une bonne nouvelle.
Une bonne nouvelle avant la pause.
Voilà, Ronan, on ne veut pas faire la pause maintenant parce que comme il est chaud pour le marathon, il va continuer encore un peu. Voilà.
Tout à fait, ouais, je me suis entraîné. donc, deux petites bonnes nouvelles. Donc, au Myanmar, plus de 50 prisonniers politiques, dont les prisonniers d'opinion Umin Aiz, j'ai toujours des noms à coucher dehors, ouais. Et So Kyo Min, ouais, ont été libérés le lundi 19 novembre. Un nouveau pas dans la bonne direction.
Je précise que le Myanmar, c'est la Birmanie, hein, parce qu'il y a des gens qui
savent pas. Oui, tout à fait. Et aussi en Guinée équatoriale, Fabian Ndjougema, avocat.
Ronan choisit toujours des cas de gens imprononçables.
La prochaine fois, je vais dire Madame X, Madame Y.
Oui, voilà.
Ça sera plus simple. Donc, qui est avocat et défenseur des droits humains, a été libéré dans la soirée du 30 octobre dernier. Il a été détenu... Ah, c'est un homme. Excusez-moi, je crois que c'était une femme. Il a été détenu pendant 3 jours à la prison de Black Beach en Guinée équatoriale sans que les autorités reconnaissent son incarcération avant d'être transféré vers le poste de police central à Malabo, la capitale du pays. Donc je pense qu'on peut peut-être partir pour une petite pause.
Ouais, on va passer un peu de musique, on se retrouve juste après.
Et ça va être du Manu Chao. Oh, j'aurais pas dû le dire avant, mais bon, c'est pas grave.
C'est pas grave, on peut l'annoncer avant, il n'y a pas de souci.
الجزائر نية تسكنها الشر نية تسكنها الليل مسكين الجزائر مسكين الجزائر
Donc, on vient d'écouter Manu Chao. Encore une fois, on lui fait un petit salut de loin s'il nous écoute.
Et excusez-moi pour cette petite erreur, parce que j'ai inversé C'est deux boutons, je préfère le dire avant que mec.
On va tirer les oreilles du technicien.
Je me suis trompé de titre, j'ai inversé les boutons.
On va tirer les oreilles du technicien. Bon, mais enfin, heureusement qu'il est là, parce que quand c'est moi...
J'essaierai de faire mieux la prochaine fois.
Quand il est absent et que c'est moi la technique, c'est 50 fois pire. Bon, on parlait du marathon des signatures, deux petites infos pour finir. Enfin, pour finir, c'est loin d'être fini, mais pour vous informer sur ce qui va se passer. Deux infos de deux groupes de la région d'Amnesty. Le groupe de Louviers va faire signer des pétitions, distribuer des cartes, enfin faire toutes les actions par rapport à ce marathon. Le samedi 15 décembre, dans la galerie du Carrefour, du rond-point des Béquets à Louviers, du magasin Carrefour. Et le dimanche 9, toute la journée, au marché de Noël, dans le village du Vaudreuil. Voilà, donc deux rendez-vous pour le groupe de Louviers. Le dimanche 9, marché de Noël, village du Vaudreuil. Samedi 15, toute la journée, galerie de Carrefour, Marquette, à Louviers. Et le groupe Amnesty de Vernon fera la même chose, signer les pétitions, distribuer les cartes et faire l'info autour du marathon. Le samedi 15, toute la journée, sur la place de Gaulle, pendant le marché, de 9h à 17h. Samedi 15, place de Gaulle, à Vernon. Voilà les initiatives prises par les groupes du coin. Et nous, bien sûr, nos projections sur le mur de théâtre et d'autres surprises. Claire-Lise, vous voulez enchaîner sur le cas dont on a parlé tout à l'heure sur l'égyptienne et également sur la violence faite aux femmes. Donc, n'hésitez pas.
Voilà. Donc, je vais vous parler d'Aza Ilal Hamad Souliman, qui a été tabassé par les forces de sécurité qui demandent justice. Donc, le 17 décembre, vous savez, en Égypte, il y a eu beaucoup de manifestations. Et le 17 décembre 2011, Aza Ilal Hamad Souliman et l'un de ses amis prennent part à une de ces manifestations au Caire, entre le Parlement égyptien et la place Tahrir. Pour disperser la foule, des soldats attaquent les manifestants qui s'enfuient en traversant la place Tahrir. Alors qu'elle allait prendre la fuite, Aza Ilal aperçoit une jeune femme rouée de coups par un groupe de soldats qui lui arrache ses vêtements. Avec son ami et d'autres manifestants, elle essaye alors de venir en aide à la jeune femme. Les soldats lui ordonnent de partir, mais devant le refus d'Aza Ilal, il la projette à terre et lui assène des coups pendant qu'un autre officier de l'armée lui tire une balle dans le genou de son ami. Les soldats tabassent violemment Aza Ilal alors même qu'elle avait perdu connaissance. Aza Ilal Hamad Souliman revient à elle à l'hôpital, le crâne fracturé, hurlant de douleur. Les médecins lui prodiguent des soins d'urgence, mais elle perd connaissance fréquemment. Ils disent à sa famille de se préparer au pire. Bon, peu à peu, pourtant, son état se stabilise. Le frère d'Aza Ilal dépose une plainte contre l'armée auprès du bureau du procureur général en février 2012. Aza Ilal Hamad Souliman finit par déposer son témoignage auprès du parquet. Des militants ont filmé l'agression à son encontre et ils ont publié la vidéo sur Internet. Cette vidéo a indigné les Égyptiens, qui engendrant des protestations contre l'impunité des responsables de cette agression. Alors, Aza Ilal, âgé de 49 ans, se bat aujourd'hui toujours pour que la justice lui soit rendue. Aucun membre des forces armées n'a été tenu par les autorités de rendre des comptes pour son agression et elle n'a obtenu aucune forme de réparation pour le préjudice subi, ni aucune proposition afin de l'aider à se rétablir du fait des brutalités subies. Elle souffre à présent de troubles de mémoire. Depuis la révolution du 25 janvier 2011, l'armée égyptienne et les forces de sécurité ont tué plus de 100 manifestants. Des centaines d'autres sont atteints de handicaps permanents tels que la cécité ou la paralysie. La répression n'a pas cessé dans les rues. Les troupes de l'armée et la police ont arrêté et torturé des manifestants. Elles s'en sont prises spécifiquement aux femmes, infligeant à des prisonnières des tests de virginité et des menaces de viol. L'armée et la police égyptienne opèrent au-dessus des lois. Dans deux rapports publiés en octobre 2012, Amnesty International demande au nouveau président Morsi de rétablir l'état de droit et de faire en sorte que les membres de l'armée et des forces de sécurité respectent les droits des femmes et ne leur fassent plus subir de violences sexuelles ou liées au genre. Donc voilà. Donc c'est un des cas du marathon des signatures et bon, c'est vrai que dans ce pays il y a encore des manifestations aujourd'hui et souvent les femmes sont prises pour cible et sont tabassées, mais il n'y a pas que en Égypte, parce que non. Ça me fait penser à récemment une manifestation en France où des femmes nues manifestaient et ont été tabassés par les forces de l'ordre d'extrême droite. La semaine dernière. Voilà, et ça se passait en France.
Les féminins.
C'était pas lors de
manifestation.
C'était pas lors de manifestation contre le mariage pour tous, c'est ça ?
Oui, voilà, c'est ça. Et eux, ils n'étaient pas du tout d'accord, mais ils n'étaient pas obligés de les tabasser. Bon, elles étaient nues, sans armes, et eux, c'était des vigiles de service d'ordre, voilà.
Je précise que Amnesty International France s'est effectivement pris position en faveur du mariage pour tous. Ce qui est une évidence, mais c'est toujours utile de le rappeler.
Et on aimerait bien que les représentants jouent le rôle de la démocratie.
Les représentants de quoi ?
Les maires de ce pays.
Hein ? Ah oui, d'accord. Oui. D'accord.
Et donc, je voulais vous parler aussi en fait, la lutte contre les violences faites aux femmes en France. Donc, parce que, en fait, le 25 novembre dernier, c'était il n'y a pas longtemps, il y a deux jours, c'était la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Et à l'occasion de cette journée, pour l'élimination de la violence, Amnesty International met l'accent sur les violences sexuelles et liées au genre dirigé contre les femmes et les jeunes filles. Il y a un texte au niveau européen que la France devrait ratifier, donc une convention visant à mettre fin à la violence à l'égard des femmes. La ratification de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique constituera une étape majeure dans le renforcement d'une lutte efficace contre ces violences. La violence des femmes, la violence à l'égard des femmes, et y compris la violence domestique, est l'une des formes les plus graves de violation des droits de la personne humaine. Amnesty International France a demandé au gouvernement de ratifier la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes et la violence domestique. Donc le 25 novembre, ça a été une date symbolique pour annoncer une telle ratification, mais actuellement, ça n'a pas encore été le cas.
J'ai entendu une déclaration de notre président actuel par rapport dans le cadre de cette journée. Effectivement, il faut rappeler qu'Amnesty et Amnesty France s'est engagé dans ce dossier depuis 2005 et a déjà publié un rapport et des mises à jour sur la violence faite aux femmes.
Donc, la convention a été adoptée par le comité des ministres du Conseil de l'Europe en mai 2011. Elle entrera en vigueur une fois que les 10 pays l'auront ratifiée. À ce jour, seule la Turquie l'a ratifiée. 23 pays l'ont signée, dont la France, mais la ratification serait un geste important et inciterait d'autres États sur cette voie. Et son entrée en vigueur constituerait une étape majeure dans le renforcement de la prévention et la lutte efficace contre les violences envers les femmes.
On va réimproviser un quiz. Je crois qu'on l'a déjà fait, mais c'est pas grave. C'est quoi la différence entre le fait de signer un texte et de le ratifier ? Claire Lise va nous répondre. Claire Lise ne répond pas.
Claire Lise soupire. Alors,
non, un État signe un texte, c'est-à-dire qu'il donne un accord de principe. Le fait de le ratifier, c'est le fait de le faire passer dans les textes de loi et de le rendre effectif. Donc, on peut très bien signer un texte. Les États-Unis sont assez forts là-dessus sur un tas de plans de signer des textes et après de jamais les ratifier. Comme ça, effectivement, ça n'engage pas à grand-chose. Donc, il faut signer et ratifier.
Voilà. Et le faire appliquer ensuite.
Et le faire appliquer parce qu'en fait, en France actuellement, une femme décède encore tous les 3 jours sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon. Et le renforcement de la lutte contre les violences faites aux femmes doit rester une priorité. Tolérance zéro face à de tels actes. Cette convention est un traité international dont les dispositions visent à prévenir les violences, à protéger les victimes de ces actes et à poursuivre leurs auteurs. Son but est la tolérance zéro face à de tels actes de violence. Amnesty International avait salué l'adoption de la convention en mai 2011, en la qualifiant d'étape importante vers la fin de la violence à l'égard des femmes en Europe. Ce traité est ambitieux et décisif. Il constitue le premier instrument européen juridiquement contraignant, ayant pour but de protéger les femmes contre toute forme de violence. Il définit plusieurs formes de violence, dont le mariage forcé, les mutilations génitales, le harcèlement, les violences physiques et psychologiques et les violences sexuelles. C'est le premier texte juridiquement contraignant à inclure des dispositions de nature à combattre le phénomène des crimes prétendument commis au nom de l'honneur. Donc voilà.
Bien.
Je laisse la parole à Didier qui me fait signe que non, la montre
temps,
tourne.
Le
la
temps nous presse, tourne. Le temps nous presse, oui, effectivement. Et donc, il faut laisser la place aussi dans peu de temps maintenant. Sabine va quand même vous dire un petit mot sur une action urgente d'Amnesty par rapport à Sabine.
À l'Ouganda. Donc, on a fait un pas en avant en France, mais en Ouganda, il y a un projet de loi contre l'homosexualité qui pourrait être adopté très prochainement. Et là, c'est très urgent parce qu'il faut agir avant le 30 novembre. C'est une pétition urgente, donc une action urgente qu'Amnesty soutient et que Havas aussi soutient. Donc, le Parlement ougandais a décidé d'adopter une nouvelle loi cruelle qui pourrait prévoir, entre autres, la peine de mort ou la prison à vie pour homosexualité. S'il réussit, des milliers d'Ougandais pourraient être exécutés pour le simple crime d'aimer. Cette loi avait déjà été stoppée et nous pouvons encore le faire. Alors à vos stylos, à vos PC, là, avant le 30, il faut y aller. Hein. Après une mobilisation mondiale sans précédent l'an dernier, le président Museveni avait dû suspendre le vote. Mais la crise politique s'intensifie en Ouganda et les extrémistes religieux au Parlement espèrent que la confusion et la violence urbaine détourneront l'attention de la communauté internationale pendant qu'ils tenteront, pour la deuxième fois, de faire adopter cette loi haineuse en catimini. Alors, il faut leur montrer qu'on les surveille de loin et qu'on est contre. Nous n'avons pas de temps à perdre. Hein, il faut rassembler au moins 1 million de voix contre cette horrible loi anti-gay. Donc, cette pétition, vous pouvez la trouver sur Havas. Être gay en Ouganda est déjà dangereux et terrifiant. Les Ougandais LGBT sont régulièrement harcelés et passés à tabac. L'an dernier, le militant pour les droits LGTB, David Kato, a été sauvagement assassiné chez lui. Tous les Ougandais LGBT sont plus que jamais menacés par cette loi cruelle qui condamnerait à la prison à vie toute personne ayant eu des relations sexuelles avec un individu du même sexe et les multirécidivistes à la peine de mort. Même les ONG luttant contre la propagation du sida risquent la prison pour promotion de l'homosexualité, selon les termes de cette loi haineuse. L'Ouganda est en pleine tourmente politique. Un scandale secoue le Parlement qui doit composer avec le retrait de millions de dollars d'aide humanitaire. Cette agitation a donné aux extrémistes religieux et aux législateurs l'occasion parfaite de ressortir discrètement le projet de loi anti-gay que la présidente du Parlement a cyniquement qualifié de cadeau de Noël aux Ougandais. Alors faisons-leur un cadeau, nous allons signer avant le 30. Vous avez la pétition sur www.amnesty.fr Ouganda ou sur Havas aussi, parce que c'est important,
c'est
vous pouvez faire les deux.
C'est la même chose.
Havas.org.
C'est la même chose.
Je ne suis pas sûr qu'elle soit sous le site d'Amnesty.
Si, elle y est depuis le 26 novembre.
Sinon, vous avez aussi l'action urgente, vous nous envoyez un mail très rapidement à amnesty.evreux@gmail.com amnesty.evreux@gmail.com il faut agir effectivement très très vite, donc d'où le terme d'action urgente, donc on vous attend. Une dernière info et puis on va céder la place au laboratoire qui est en train d'installer ses éprouvettes donc, on va lui laisser la place. Dernière info, mais c'est aussi une info importante, c'est une info locale encore une fois, à part les projections sur le théâtre entre le 7 et le 15, on vous le rappelle, guettez-nous, venez nous voir sur le théâtre d'Evreux, il y a des surprises. Pas dans le théâtre, hein, mais dehors.
Pourquoi Sabine se déguise en banane ?
Sabine ne se déguise pas en banane.
Il n'y a
pas la police. Enfin,
peut-être.
La police fait son travail, hein, il n'y a pas de souci. Bah oui, non mais je sais pourquoi tu dis ça. Par contre, vendredi 30, 18h, et une grande première, c'était une étape importante pour le groupe d'Amnesty Evreux, nous inaugurons nos locaux aux 3 rue Vigor à l'espace Saint-Léger. Si certains d'entre vous ont envie de venir nous rendre une petite visite, il y aura la présence du vice-président Alain Cohen-Blint, vice-président d'Amnesty International France. Il y aura un certain nombre d'élus qui nous feront le plaisir d'être parmi nous. Et donc, nous avons nos locaux qui sont en train d'être aménagés. Enfin, ça se termine. Au 3 rue Vigor, 18h vendredi, 18 à 20h. Et après, on pourra s'y retrouver de façon beaucoup plus suivie.
Et bien sûr, il y aura un coup à boire.
Il y aura effectivement un coup à boire. Bon, c'est sûr que c'est un tournant pour Amnesty parce que le fait d'avoir nos propres locaux va changer beaucoup de choses. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Encore une fois, on vous rappelle le marathon des signatures, aussi bien ici qu'à Louviers, qu'à Vernon. Il y a eu 1 300 000 signatures l'an dernier. On peut bien évidemment faire mieux au niveau mondial. Plus on est nombreux à signer, plus on fait reculer la répression. Ça a toujours été vrai et ça le restera.
Par contre, pour la prochaine émission, pour l'instant...
Alors, la prochaine émission, voilà. T'as raison.
Pas, ça ne sera pas le jour de Noël.
Ce sera pas, oui, parce
le mardi,
que
nous, ça tombe le jour de Noël.
Ça tombe le mardi 25, notre
prochaine émission. Et moi, ça ne m'arrange pas trop, je pense. Pas
donc, on va sûrement voir, on ne sait pas trop, mais on va la décaler un autre jour, on va voir. Bref, ce sera la surprise pour le mois prochain, on va faire une émission baladeuse, à une date à déterminer.
Sur ce, on vous souhaite une bonne soirée, on laisse la place au laboratoire.
Voilà. Bonne soirée, n'oubliez pas que vos signatures ont du pouvoir.
À bientôt.
Faites des cadeaux.